Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Mathieu, qui habite en Corse, a demandé à Franck Ferrand une émission sur François Mitterrand. Celui-ci vient justement de faire l'objet d'un ouvrage signé Michel Cotta. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Michel Cotta est avec nous dans ce studio. Son livre s'inscrit dans la collection Le Monde Selon chez Talendier. Vous savez, nous avons déjà eu l'occasion de parler de certains volumes. Or, c'est peu dire que les citations dont il est tissé sont remarquables. Je vous donne par exemple, c'est tiré d'ici et maintenant, une citation de François Mitterrand sur les sondages. « Supposez un sondage sur Munich en 1938, dit-il. Sur l'armistice de 1940, sur Pétain en novembre 42 et supputer le résultat probable. » Et un peu plus loin, « Je m'inquiète de ces hommes politiques qui, pour un point dans les sondages, se soulageraient d'un Munich par mois. » Avant de revenir avec mon invité sur la partie connue de la carrière de Mitterrand, je vous propose d'en parcourir ensemble la partie moins connue, celle des années d'enfance et de jeunesse, et notamment.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Julien, qui vous demande comment on faisait pour se réveiller le matin avant l'invention du réveil.
Ah ben voilà une question tout à fait pratique, comme nous les aimons. Pour le moment, je vous propose de revenir sur une jeunesse française, pour reprendre le titre de Pierre Perrin, sur la jeunesse de François Mitterrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
D'abord, il y a ce nom tellement connu des Français, ce nom de Mitterrand que certains s'obstinent contre l'orthographe à prononcer Mitterrand. Mitterrand est un nom d'origine berrichonne et il signifie le milieu des terres. Pourtant, ce n'est pas en Berry mais en Charente que François Mitterrand est né le 26 octobre 1916. 26 octobre donc sous le signe du Scorpion. En Charente, on peut dire que dans un pays, vous savez, on est dans les terres du cognac, et c'est une terre qui l'a marqué, évidemment. Il en a fait l'éloge tardif lors du transfert au Panthéon des cendres de Jean Monnet, lui-même natif de Cognac. Je le cite, « Le patient travail de la terre, le double passage dans les chambis, la lente maturation à l'ombre des chais de ces eaux de vie qu'on appelle les belles au bois dormant, plus encore que pour une façon de faire, témoigne. » Pour une façon d'être. Voilà un président qui savait manier la langue. Il y a comme une affectation littéraire, évidemment, dans certaines des envolées de François Mitterrand. Elle porte la trace de l'ambition première du petit François, qui rêvait de devenir un grand écrivain, comme l'autre François du Sud-Ouest, d'ailleurs, comme ce François Mauriac, à propos duquel il a la dent dure, on le verra tout à l'heure avec Michel Cotta, et qui donc devint, sinon un grand écrivain, ce François Mitterrand, du moins un excellent orateur. Qui sont ses parents? Son père, c'était Joseph Mitterrand, papa Joseph. Il était chef de gare, plus exactement agent de la compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans, à une époque où les chemins de fer étaient privés, évidemment. En 1919, ça veut dire que François avait à peine 3 ans, il avait pris une retraite anticipée pour s'occuper de l'affaire familiale de vinaigre. Il était président de la Fédération des fabricants de vinaigre de France. On est là, vous voyez, dans une espèce de petite bourgeoisie provinciale assez installée. « Je suis né provincial et j'entends bien finir provincial », lâchait d'ailleurs le président en mars 1995. Une bourgeoisie provinciale, donc surtout très catholique. Papa Joseph est un des piliers de la conférence Saint-Vincent de Paul, de sa paroisse de Jarnac. C'est un homme intelligent, aux idées libérales, aux idées ouvertes et avancées. Il est très probable qu'un certain nombre des points de vue de François Mitterrand, de ses points de vue philosophiques sur la vie, soient directement hérités de ce père. Quant à la mère, Yvonne Mitterrand, née Lorrain, elle est levée tous les matins à 6h pour entendre la messe. Elle est la fille d'un notable de la région de Cognac, Jules Lorrain, donc papa Jules pour François, dont la maison accueille souvent les jeux des enfants de Joseph et d'Yvonne. Elle mourra jeune, cette mère de François Mitterrand, à la cinquantaine, en 1936, après avoir mis au monde et remarquablement élevé 8 enfants. Je dis remarquablement élevé, il n'y a qu'à voir les carrières de tous les frères de François Mitterrand, tout à fait extraordinaire. François est donc le cinquième, un des quatre garçons. Il est sans doute celui qui aura finalement le moins brillé dans les études. L'un a fait Polytechnique, l'autre Saint-Cyr. C'est le célèbre général d'aviation Jacques Mitterrand. François, lui, ne fait, si je puis dire, que Sciences Po. Il fait l'école libre des sciences politiques à l'époque, ce qui le destine à une carrière évidemment moins brillante que celle de ses frères. C'est une de ces familles où l'éducation des enfants est parfaite. Vous savez, famille catholique, humaniste, où l'on ne parle pas d'argent, ce serait une chose indécente. Il est important de noter que le père, Joseph, est un monarchiste convaincu. Ça a joué aussi un rôle dans la formation de François Mitterrand. Et du côté de la mère, par l'oncle qui s'appelle Robert Lorrain, on est dans une inspiration nettement plus républicaine. Yvonne Lorrain nourrit une véritable admiration pour les pères de la démocratie américaine et je ne sais pas s'il faut voir là l'origine de l'atlantisme de François Mitterrand. Vous savez, il disait d'ailleurs qu'il aimait beaucoup les Américains mais qu'il détestait leur politique. J'ai retrouvé ça dans l'ouvrage de Michel Cotta. Rappelez-vous le discours du Bundestag en 1983, les fusées sont à l'est et les pacifistes à l'ouest. C'est en 1934 que le jeune François débarque à Paris, si je puis dire, pour y faire son droit. Il a 18 ans. Voilà, dans le quartier latin, agité par les souvenirs encore tout frais des émeutes anti-républicaines du 6 février, on est en 1934. Évidemment, le jeune homme, disons-le, a une oreille pour le moins complaisante à toutes ces thèses ultra-nationalistes de l'époque. Il baigne dans un milieu et au milieu d'étudiants qui font partie de ce qu'on appelait à l'époque la droite maurrassienne. Il loge, faut pas l'oublier, ça c'est très important, au 104 rue Vaugirard, cette rue de Vaugirard où sont les permaristes. Il est chez les permaristes et là va se créer un petit cercle qui est justement très, très nationaliste. Je précise entre nous que François Mitterrand avait fait ses études au collège Saint-Paul d'Angoulême, chez des prêtres séculiers, non pas du tout chez les jésuites, comme l'ont répété tant de générations de journalistes à tort. Surtout, il s'intéresse à la littérature. Je vous l'ai dit, c'est ça son domaine. Valéry, Giraudoux à l'époque, vous imaginez, Édrieux La Rochelle et Bernanos, et Gide, peut-être avant tous les autres. On sait aussi qu'il avait une vraie passion pour Chardon. Ça, le président en avait, sur le tard, en avait fait quasiment une référence. La politique ne vient qu'après tout ça. Elle ne vient qu'après la littérature, avec des intérêts assez écuméniques en matière politique, puisqu'on le voit assister certes au discours du colonel de La Roque ou au discours de Doriot, mais aussi au discours de Maurice Thorez ou de Léon Blum, qu'il admire beaucoup d'ailleurs. Donc je crois que ce qui fascine François Mitterrand, peut-être plus que l'engagement très à droite ou très à gauche de tel ou tel orateur, c'est en vérité le feu qu'il est capable de mettre dans son discours, et ça l'inspire bien entendu. Alors, depuis les enquêtes de Pierre Péan, plus personne n'ignore que le jeune François Mitterrand a flirté avec des mouvements très durs, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains ont même voulu faire de lui un membre de la cagoule. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très discuté. Est-ce qu'il a milité pour l'Action française? C'est ce que disent certains. Personne, pour l'instant que je sache, n'a réussi à le prouver. Est-ce qu'il était véritablement monarchiste comme son père? Ce qui est certain, c'est la fameuse photo où on le voit le 1er février 35, au milieu de cette manifestation contre l'envahissement de la France par les étrangers. On est dans la phraséologie de l'époque, c'était une manifestation contre les métèques, disait-on à l'époque. Et dans sa biographie, Jean Lacouture a nuancé cette présence, justement. Et voilà ce que dit Jean Lacouture. Le fait que ce monôme organisé par l'Action française ait été dénoncé expressément par le colonel de La Roque, auquel Mitterrand est alors fidèle, ne contribue pas à accréditer l'idée d'une participation active ou d'une adhésion du volontaire national à cette manifestation. Metec n'appartenait ni au langage du jeune homme, ni à celui des partisans de La Roque. Et c'est vrai que, encore une fois, rappelez-vous les origines humanistes de François Mitterrand et notamment la formation humaniste de son père. Je crois qu'on a beaucoup dépensé d'énergie à essayer de faire la lumière sur ces questions essentiellement obscures et qui, à mon avis, le resteront très longtemps. Vous savez, et c'est ce que nous disions, je parlais de cela avec Michel Cotta juste avant de commencer cette émission, ce qui est fascinant face à François Mitterrand, c'est l'incroyable complexité de ce personnage et les abîmes dans lesquels nous plonge forcément tout essai, toute volonté de faire la lumière sur ce qui doit peut-être rester un peu dans l'ombre.
originale du film Les Saveurs du Palais sur Europe 1. Revenons avec vous Franck Ferrand à la jeunesse de François Mitterrand.
Les Saveurs du Palais qui s'inspire du rapport que le président Mitterrand entretenait avec le chef de ses cuisines, vous savez, et en l'occurrence c'est Jean d'Ormesson qui joue le rôle du président dans ce joli film. Alors, François Mitterrand est un orateur né, il y a en lui l'âme d'un écrivain rentré et il y a surtout l'étoffe de 30 élus, car il est avant tout ambitieux. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre pour essayer de cerner un peu cette jeunesse où on sait que Mauriac, beaucoup plus tard, le comparera à Rastignac. Ça lui avait pas plu du tout, d'ailleurs. Mais pour vous donner une idée, on élit chaque année au 104 rue de Vaugirard un président des étudiants. Eh bien, on va le voir faire campagne et se démener pour être élu président. Vous ouvrez que c'est peut-être pas... Mais ça fait partie de sa nature. En 1938, il est incorporé au 23e régiment d'infanterie coloniale et au début de l'année suivante, son régiment est affecté, il fait son service militaire, hein, est affecté au château de Versailles pour la réunion du Congrès. Vous savez qu'à l'époque, on réunissait les deux chambres à Versailles pour élire le président de la République. Et l'on voit François Mitterrand présenter les armes devant le sage et triste Albert Lebrun qui vient donc d'être élu. C'est assez amusant cette image d'un François qui, 42 ans avant le 10 mai 1981, va présenter lui-même les armes devant le président Lebrun. Alors bientôt, François Mitterrand va connaître son premier grand amour pour une jeune fille du nom de Marie-Louise Terrasse, qui deviendra plus tard, sous le pseudonyme de Catherine Langeais, l'une des premières speakerines de la télévision française. À l'issue de la drôle de guerre et de la campagne lancée par l'offensive allemande du 10 mai 40, François Mitterrand est blessé le 14 juin, peut-être du côté de Montmédy. Alors on n'en sait pas beaucoup sur cette blessure, c'est encore l'objet d'une polémique entre les historiens. Ce qui est certain, c'est qu'il est fait prisonnier, interné en Allemagne, au Stalag 9A, près de Weimar, dans le commando 1515, où sont rassemblés essentiellement des enseignants et des prêtres. C'est un épisode déterminant dans la biographie du futur chef de l'État, qui, à ce moment-là, va découvrir toutes les vilainies de l'âme humaine, si je puis dire, et la misère et le sens d'un certain partage. Dans Ma part de vérité, il raconte « À midi, les Allemands faisaient apporter des bassines de soupe au rutabaga et de boules de pain, et débrouillez-vous pour la journée. D'abord, ce fut le règne du plus fort. » Il faut avoir vu, dit-il un peu plus loin, il faut avoir vu les nouveaux délégués désignés on ne sait comment, couper le pain noir en 6 tranches au millimètre près sous le contrôle écarquillé du suffrage universel. Spectacle rare et instructif. Ah, là on retrouve bien l'esprit mordant et la vague ironie de François Mitterrand. La leçon majeure de la soupe au rutabaga, si je puis dire, où certains biographes veulent voir naître la conscience politique de François Mitterrand, ce sera plutôt une leçon d'humanité, me semble-t-il, et de fraternité aussi, probablement. Au cours de cette captivité, il faut signaler qu'il a tenté de s'évader 2 fois, en mars 41 et en novembre de la même année, où il arrivera quand même jusqu'à Metz. Il prend une chambre dans un hôtel et au petit matin, Polizei, il est repris pour la deuxième fois. Hein, ça lui était déjà arrivé après 3 semaines la première fois. Il ne rentrera finalement en France que le 15 décembre 1941. Et à ce moment-là, il sait que sa quasi-fiancée de l'époque ne l'a pas attendu. Et il va vivre ça comme une véritable trahison. Et ça a sans doute là aussi compté dans sa formation. Il est toujours très difficile, vous savez, de faire le départ des événements de la vie d'un jeune homme et de savoir, ou d'une jeune femme, et de savoir ce qui a formé un caractère et une conscience. En tout cas, il y a là comme ça un certain nombre d'épreuves, évidemment, qui sont importantes. Après quelques semaines de remise en forme dans sa famille sur la côte méditerranéenne et une visite en clandestin à son père qui est resté en Charente au premier de l'an 42, le jeune homme, toujours aussi ambitieux, débarque là où ça se passe, n'est-ce pas? Et où est-ce que ça se passe à l'époque? Ben, à Vichy, bien entendu. Ce que Jean Lacouture appelle ce Versailles de la panique qu'était Vichy. Vichy, c'est le siège de l'État français. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que très bientôt, nous ferons une émission avec l'ancien secrétaire particulier du maréchal Pétain. Ce sera une émission document. Je ferme tout de suite cette parenthèse, on y reviendra en temps utile. Vichy que Mitterrand va qualifier lui-même en 94 au micro de Jean-Pierre Elkabbach de pétaudière. Il va quand même passer 18 mois dans ce marigot. 18 mois délicieux, assidus et ennuyeux, si l'on en croit Georges-Marc Benamou qui a rapporté les propos du président. se représenter le Vichy de l'État français, c'est tout, déjà tout un travail. Hein. Ces grands hôtels autour du Parc des Sources, tout ça réquisitionné par les commissariats, comme on disait, qui étaient les ministères de l'époque. François Mitterrand habite au 20 rue Jean Jaurès, ça ne s'invente pas, dans un immeuble dont François Dufay-Dupont nous apprend qu'on l'a rasé d'ailleurs depuis. Et il travaille à la Légion française des combattants et volontaires de la Révolution nationale. Il fait des fiches, et alors si l'on en croit Pierre Péan, il fait des fiches sur les communistes, sur les gaullistes, sur tous ceux qui sont considérés comme anti-nationaux. C'est sûrement pas la partie la plus présentable du CV, si je puis dire, de François Mitterrand. Un peu plus tard, en juin 42, il s'occupera de la presse. Il est au commissariat au reclassement des prisonniers de guerre et rapatriés. Ça, c'est fondamental parce que là aussi va naître une certaine conscience. Il a vu le maréchal Pétain une fois au théâtre, dit-il dans une lettre du 13 mars 1942. Je cite François Mitterrand à l'époque. Hein, « J'étais assis juste devant sa loge et j'ai pu le considérer de près et confortablement. Il est magnifique d'allure, son visage est celui d'une statue de marbre. » Je trouve cette citation intéressante quand on sait que le visage de François Mitterrand, que j'ai eu l'occasion de voir un certain nombre de fois moi-même, avait justement cette apparence marmoréenne et quasiment figée d'une certaine manière. Alors, on peut dire aujourd'hui avec un recul suffisant, on peut dire que François Mitterrand a été pétainiste, mais comme tant et tant de Français, bon, lui, il était quand même plus proche. Il a reçu la Francisque, ça a été dit et redit, on le sait bien entendu. Quelle est exactement sa position vis-à-vis du maréchal Pétain? Voilà ce qu'écrivait Jacques Laurent, vous savez, le fameux Cécile Saint-Laurent, qui, il faut toujours en prendre et en laisser dans ce qu'il raconte, mais enfin tout de même, il dit un jour, nous marchions côte à côte avec Mitterrand, il est donc lui aussi à Vichy à la même époque, hein, nous nous sommes arrêtés devant une vitrine, il y avait en devanture la photo de Pétain, Mitterrand l'a regardé et a lancé le plus sérieusement du monde, dans un an, ce ne sera plus cette photo qui sera là, mais la mienne. Je ne sais pas si Jacques Laurent a réécrit l'histoire après coup, mais en tout cas, il y a toujours cette espèce d'ambition absolument phénoménale de François Mitterrand. On peut dire qu'on est en présence d'un personnage qui ne voit pas de borne à ses ambitions.
Pour agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails, europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la vie de François Mitterrand.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand à la vie et à la jeunesse de François Mitterrand.
Alors François Mitterrand, après l'invasion de la zone libre, comme un certain nombre de ses camarades d'ailleurs du régime de Vichy, va passer à la résistance. Certains l'ont fait plus ou moins ouvertement, lui est vraiment entré en résistance sous le pseudonyme de Morlan. D'ailleurs certains n'ont pas manqué de faire remarquer qu'il a pris comme pseudonyme le nom d'une station de métro, comme le faisaient systématiquement les cagoulards de la résistance. Bon, c'est pas une preuve, au mieux c'est un indice. Il aura d'ailleurs plus tard un autre, au moment de son passage à Londres chez De Gaulle à l'été 43, il va être baptisé Monnier dans la résistance. En fait, non seulement François Mitterrand n'a jamais été gaulliste, mais, et ça c'est assez étonnant, il fait preuve, bien que résistant, au cœur même de la guerre, et après son passage à Londres, il fait preuve d'un anti-gaullisme viscéral. Il est favorable, lui, au général Giraud. Pour Mitterrand, De Gaulle n'est pas quelqu'un de crédible. Et alors, il dira à Alain Duhamel plus tard, je trouve cette citation incroyable, le récit reste à écrire de la savante élimination de la résistance de l'intérieur par celle de Londres. Ce récit révélerait comment le chef de la France libre parvint à confisquer le capital de sacrifice amassé par le peuple obscur des soldats de la nuit. C'est très intéressant parce que c'est sans doute l'une des explications du positionnement de François Mitterrand, un positionnement qui aura beaucoup plus tard, au moment de la traversée du désert du général de Gaulle et surtout de sa prise de pouvoir en 1958, son retour au pouvoir, devrais-je dire, ça aura des conséquences absolument majeures. À la libération, un certain nombre des gaullistes, je pense à Michel Caillaud, d'autres, des gaullistes proches du nouveau chef de l'État, du gouvernement provisoire de la République, vont contester toute légitimité à Mitterrand, mais vous ne l'empêcherez pas d'être là, de s'installer. Il saisit une occasion qui se présente en novembre 46 d'être élu à l'Assemblée sous le sigle d'un certain RGR, Rassemblement des Gauches Républicaines. Entre-temps, il avait été le président d'une fédération de prisonniers de guerre, ce qui a joué un rôle tout à fait essentiel. En fait, cette espèce de RGR, là, ça n'est ni à gauche ni républicain, malgré le nom. Hein. C'est une émanation, en fait, d'Eugène Schuller, dont on aurait l'occasion de parler et qui nous ramènerait sur toute la question Bettencourt, etc. Il faut dire que François Mitterrand est, à l'époque, le directeur d'une revue qui a été fondée par Schuller. Pour lui, c'est le début d'une carrière ministérielle qui va être précoce et brillante. À 28 ans, il est ministre des Anciens Combattants, puis les portefeuilles s'enchaînent de plus en plus importants. Il sera ministre de la Justice dans le gouvernement Mollet. C'est là, vous savez, vous connaissez la fameuse phrase hein, « l'Algérie, c'est la France », etc. Ministre de l'Intérieur sous Pierre Mendès France. Il doit faire face à l'époque à l'affaire des fuites. Et on lui colle sur le dos un certain nombre de fuites du Conseil de Défense, à une époque où c'est d'une importance capitale. On est en pleine naissance de la guerre froide. Bref, je n'entre pas dans tous ces chapitres, tous plus passionnants les uns que les autres, mais c'est pour vous dire qu'il est au cœur de l'appareil d'État et qu'il est déjà au pouvoir à l'époque. Cette carrière précoce, en quelque sorte, va lui servir d'école de politique, d'une certaine manière. Et l'on peut dire que la politique, c'est bien dans le creuset de la 4e République que François Mitterrand l'apprend. Véritablement. Il visait incontestablement la présidence du Conseil. C'était ça le but ultime. Et d'ailleurs, vous avouerez qu'après avoir été un ministre de la Justice très remarqué et un ministre de l'Intérieur plus discuté, il était bien placé, pourquoi pas, pour décrocher un de ses ministères. Vous savez, l'instabilité gouvernementale de la 4e République était très grande. Et oui, sauf qu'arrive en 1958, cette fameuse crise du 13 mai qui va ramener, j'allais dire quasi manu militari, le général de Gaulle au pouvoir et qui va tout remettre en cause. Voilà François Mitterrand soudain sans portefeuille, sans mandat de député. Il sera élu quand même sénateur de la Nièvre en avril 59. Il est obligé à ce moment-là de reprendre du service au barreau de Paris. Parce qu'après tout, oui, j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais il est avocat de métier tout de même. C'est dans les couloirs du palais qu'il va rencontrer un personnage trouble, lui aussi ancien député balayé par le retour de De Gaulle, Robert Pesquet. C'est toute l'affaire, et là naît une affaire d'une, alors encore plus sombre, encore plus obscure que les autres, c'est la célèbre affaire des jardins de l'Observatoire. Comment François Mitterrand s'est-il retrouvé embringué dans cette espèce de faux attentat qui va profondément le ridiculiser et qui va devenir sans doute le premier véritable écueil de sa carrière politique? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de démêler dans un instant en compagnie de Michel Cotta. Bonjour Michel Cotta.
Bonjour.
J'ai été vraiment très vite, mais c'est parce que je veux laisser tout le temps aux citations merveilleuses que vous avez collectées dans cet ouvrage qui s'appelle tout simplement « Le monde selon Mitterrand ».
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est François Mitterrand qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, la journaliste et éditorialiste Michel Cotta, auteur du « Monde selon Mitterrand » aux éditions Talendier.
Alors Michel Cotta, cette affaire des jardins de l'Observatoire, ce qui est quand même incroyable, c'est que presque 20 ans après la mort de François Mitterrand, on continue à parler de cette histoire. C'est un peu une sorte de serpent de mer de la vie politique française. Qu'est-ce qui s'est passé en deux mots?
Alors qu'on continue à en parler, alors que le principal responsable, qui était le Robert Pesquet dont vous signalez l'existence et qui s'était rapproché de Mitterrand, a avoué sur France 3,
en 2005, hein.
En 2005, oui. Qu'il avait été seul à faire tendre un piège de ce genre à Mitterrand. Toujours est-il que François Mitterrand était tombé dans ce piège, parce que finalement, on ne sait pas trop s'il avait vraiment cru à ces menaces qui pesaient sur lui. Mais vous savez, c'est une époque
des menaces
où on disait,
qui venaient de l'OAS, qui étaient censées venir de l'OAS.
Mais à cette époque, c'était en 1959, il y avait réellement des menaces de l'OAS qui menaçaient les politiques français, qu'il s'agisse d'un côté de François de Gaulle, de François Mitterrand, de l'autre de Charles de Gaulle. Donc, il pouvait y croire légitimement à ce qui est des actions contre lui. Ou est-ce que il a essayé au fond de profiter du fait qu'il était un premier adversaire à gauche de ces réseaux OAS pour rebondir, lui qui avait été obligé de quitter le Parlement. Et donc,
ça pourrait être une petite opération qui tourne très mal et qui devient un énorme scandale.
Ça, ça pourrait être une petite opération qui est quand même très très bien ficelée par ses opposants et qui le fait réellement trébucher, mais qui le fait trébucher d'une manière positif, finalement, si j'ose dire. Je crois qu'il en est malade, cette affaire le rend absolument...
Il a songé au suicide,
Il l'a dit après qu'il avait songé, en tout cas, à quitter la carrière, et peut-être même au suicide. Et puis, comme toujours, il a rebondi. Parce que c'est quelqu'un qui rebondit. Et il s'est vraiment remis en cause, en se voyant comme un homme trop seul... Parce qu'au fond, il n'avait parlé à personne de cette histoire de l'Observateur. Peut-être aurait-il parlé à un de ses amis, comme Georges Dayan, qui était proche de lui. Peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Mais au contraire, il est parti tout seul ce soir-là. Enfin bon. Donc il s'est dit d'abord qu'il ne fallait plus être un homme complètement seul, qu'il fallait donc avoir une vraie équipe. Et puis il s'est dit progressivement qu'avec une vraie équipe, il pourrait révolutionner le monde. Et il disait d'ailleurs assez souvent qu'avec une poignée d'hommes, on pouvait prendre le pouvoir en France. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il a fait.
Oui, et un certain nombre d'exemples lui permettaient de le dire. Nous serons dans quelques jours, vendredi prochain, en direct de Golfe-Juan pour évoquer le retour de Napoléon en 1815. Et c'est ce qu'il a fait, en l'occurrence. Il a vraiment repris le pouvoir avec une poignée d'hommes. Bon, François Mitterrand était, je crois qu'on peut le dire, un jeune ambitieux. Il n'aimait pas du tout qu'on dise ça, paradoxalement, mais c'est bien la vérité.
Je crois que oui, on peut pas dire le contraire. Maintenant, je crois qu'il y a une part d'ambition nécessaire quand on veut faire ses carrières politiques. Si on n'est pas ambitieux, c'est pas la peine d'y penser. Bon, je pense que depuis, il a toujours vu, toujours pris l'occasion de se rapprocher du pouvoir. Par exemple, je me rappelle ça, j'ai un très bon souvenir du référendum, donc très lointain, de 1962. Qui était celui de l'élection du président de la République au suffrage universel. Toute la gauche était contre. Charles de Gaulle l'avait proposé et les Français l'ont accepté à une énorme majorité. Toute la gauche était contre, mais ce soir-là, dès que le référendum est passé, a été positif, Mitterrand a dit « c'est pour moi, c'est moi qui me présenterai la prochaine fois au nom de la gauche ».
Ce qu'il a fait du reste en 1965 jusqu'à mettre...
Il a tout de suite vu, alors même que l'élection du président de la République au suffrage universel posait des problèmes à la gauche qui disait « alors c'est un plébiscite, n'importe quel Napoléon III peut arriver au pouvoir s'il veut ». Bon, c'est-à-dire un grand doute sur le suffrage universel quand même. Eh bien, il a été le premier à se dire ce soir-là, hein, il l'a raconté après, mais ce soir-là, c'est pour moi. Alors c'est presque plus qu'une ambition, vous voyez, c'est presque plus qu'une ambition. C'est,
cette réponse qu'il avait faite au questionnaire de Proust, je veux être pas pour roi.
Voilà.
C'est quand même incroyable.
Mais alors, ce qui est aussi significatif, je trouve, c'est qu'il n'a... Je n'ai pas pu trouver de mentor.
Et voilà, c'est très étonnant.
Tous ces jeunes gens, bon, quand on parle de Valls aujourd'hui, il dit Clémenceau.
Oui, ils ont tous un modèle.
Eh bien, lui, il n'en avait pas. Et ça, c'est quand même... Et il n'a même pas, passant à côté du général de Gaulle, entre 40 et 44, il a plutôt, été très, très en froid avec lui tout de suite, puisque la première entrevue entre les deux hommes s'est très mal passée, alors qu'il y en avait un qui avait 25 ans et l'autre qui était quand même le chef de la France libre. Donc il n'a pas de mentor. Et ça, c'est ce qui m'a quand même le plus étonné. Et Dieu sait que j'ai cherché. Alors, il y a bien sûr l'image de Léon Blum, il a quelques images. L'image de Léon Blum, le grand chapeau.
On ne peut pas du tout parler d'un modèle, effectivement, pas du tout. Quand vous dites « vous avez cherché », je vous crois sur parole, mais je vous crois aussi parce que j'ai entre les mains un ouvrage où vous avez fait une collection absolument phénoménale de citations. Vous avez tout lu concernant François Mitterrand.
Pour tout dire, on a lu à deux, avec Martin Even qui s'est chargé vraiment de la recherche tout ça, et puis j'avais lu de mon côté, ça a donné à la fin 3000 ou 4000 citations, et donc le plus difficile a été de choisir entre celles-là, et on a pris les moins connues.
C'est ça, alors vraiment il faut le souligner, je veux que nos auditeurs comprennent ça, c'est que pour tout vous dire, quand j'ai ouvert votre livre, j'étais persuadé de connaître plus de la moitié des citations. Je me disais, bon, on les connaît, les citations de François Mitterrand, parce qu'elles ont été quand même beaucoup utilisées. Et finalement, pas du tout. La quasi-totalité des citations qui sont là, à mon sens, sont sinon inédites, en tout cas très méconnues, très peu connues. Ce sont de vraies révélations. Alors, il y en a de toutes sortes. Il y a des citations qui sont des exemples de philosophie politique, d'autres qui sont des exemples de philosophie tout court. Et ça, c'est très intéressant. Toute la fin du livre, sur son rapport, évidemment, on le sait, avec la mort. Et puis alors, bien sûr, la dent dure envers un certain nombre d'adversaires. C'est l'un de ceux qui en prennent pour leur grade, c'est évidemment le président Giscard d'Estaing, qui qui a été quand même, avec le général de Gaulle, le grand adversaire de François Mitterrand. Dès qu'il hasarde une image, Giscard d'Estaing découvre ses limites, écrit François Mitterrand. Mais sa phrase à peine modulée est construite en plein chant, même si elle me fait penser à ces cartons perforés qui passent et repassent à l'orgue de Barbarie. Beaucoup l'entendent comme une grande musique, un Mozart de la manivelle. Un goût comme ça de la formule qui fait mouche, qui est un peu une habitude de prétoire du reste. On sent l'avocat parler là-dedans. Il y a des tas d'autres choses qui me plairaient davantage que de discuter avec Giscard, dit-il. C'est sûrement quelqu'un de valeur, mais il me paraît moins intéressant que trois chaînes dans un champ et un bon roman. L'avocat est là. Hein.
Alors, l'avocat est là, mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup, moi, j'ai remarqué en suivant beaucoup d'hommes politiques qui sont des grands orateurs, n'ont pas le sens de l'écriture. Puisque, au fond, l'art oratoire, l'art incantatoire, c'est le contraire de l'écriture.
Exactement, bien sûr. C'est la fulgurance immédiate.
Voilà. Et lui, effectivement, avait les deux. Il suffisait de voir la différence entre le meeting, un meeting électoral dans lequel il ne pensait toujours qu'à convaincre les trois seules personnes qui n'étaient pas convaincues, avec attachement, avec pugnacité. Et puis, le côté écrivain, alors il avait beaucoup de mal pour écrire, il se donnait beaucoup de mal. C'est pas quelqu'un qui considérait qu'on écrivait comme ça, n'importe comment. Il a beaucoup écrit des éditos dans un journal socialiste qui s'appelait L'Unité. Il faisait donc la dernière page, et à la dernière page, je peux vous dire que les Claude Estier, qui était le patron de la revue, disait qu'il apportait ça, mais au dernier moment, avec plein de corrections, que lorsque le papier était déjà tiré, déjà mis en circulation, il disait, mais on aurait pu changer ce mot-là. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui apportait aussi du soin à l'écriture. Et alors, je pense qu'il a eu assez de chance, si j'ose dire, ou assez de revers dans sa vie, plutôt, pour avoir des périodes de traversée du désert. Et c'est dans ces traversées du désert qu'il écrivait. Et après, lorsqu'il était en poste, évidemment, il n'avait plus le temps d'écrire.
Il disait, il écrivait, mais également il lisait. Vous qui l'avez connu et fréquenté, Michel Cotta, est-ce que vous pouvez dire qu'effectivement, une part importante de sa conversation portait sur l'écriture et sur les écrivains ?
Sur les écrivains, tout à fait. Peut-être pas exactement les écrivains de son temps. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui lisait des petits romans, ou en tout cas, il n'en faisait pas état.
Les grands classiques.
Mais c'est plutôt les grands classiques. Et il en parlait plutôt d'une manière vraiment formidable, notamment l'influence de Gide sur sa vie, qui a été considérable, alors que justement, c'était un enfant venu du Berry ou de Charente. Et le côté « laisse tout derrière toi » de Gide était très important pour le lancer dans la vie, pour le faire monter à Paris, parce qu'après tout, il fallait monter à Paris. Et pas seulement ça, vous avez cité Chardon, qu'il aimait beaucoup. Et aussi François Mauriac, même si de temps en temps...
Il avait des coups de griffe mutuels.
Une pique terrible. Ouais. Voilà, c'est ça. Mauriac n'était pas tendre et Mitterrand non plus.
Ça, on le voit. Il y a des échanges magnifiques dans votre livre. On célèbre en ce moment les 60 ans d'Europe 1, de la station. Et je vous propose de réécouter une archive de la maison. On est en 1977 au Club de la Presse. Et voilà le genre de réponse qu'on pouvait entendre en 1977 sur l'antenne d'Europe 1.
Quelle est l'histoire des socialistes en France ? Je place de côté pour l'instant le Parti communiste qui a son histoire propre, en tout cas depuis 1920. Quelle est l'histoire des partis ? Ou bien, obéissant à leur tempérament, qui est un tempérament porté à la réflexion et à la réflexion théorique. Ce qui fait que chacun a tendance à découvrir sa propre vérité et à la rendre pratiquement inassimilable à celle des autres. C'est un phénomène intéressant quant à la rigueur de l'esprit et difficile quant à la pratique politique. Moi, j'ai choisi l'autre stratégie, celle qui consiste à faire que tous les socialistes se retrouvent dans la même maison. À partir de là, j'en acceptais les contradictions. Et rien ne permet d'affirmer que je ne supporte plus cette contradiction. Encore faut-il que les différents courants de pensée aient suffisamment de points communs pour qu'ils aient une raison de vivre ensemble et pour qu'ils soient dans une même organisation et qu'ils poursuivent un même projet. Il y a des lois de la vie. Une organisation ne peut pas être contraire à elle-même. Qui a dit que quiconque, toute famille qui se divisait, périrait. Hein? Vous le savez autant que moi, c'est une vérité éternelle. Donc le Parti Socialiste a besoin d'une organisation. Il a besoin d'éléments d'unité. Il a besoin d'éléments d'homogénéité, non seulement dans la pensée, j'espère que cela existe, mais aussi dans le projet politique, mais aussi dans le comportement quotidien, mais aussi dans la discipline que chacun se doit à l'intérieur d'un parti politique. Et c'est sur ce plan-là qu'il convient aujourd'hui de faire des progrès.
Je pense qu'on pourrait dire à peu près la même chose 40 ans plus tard. Ce qui est fascinant, c'est d'entendre le phrasé de l'homme politique, en l'occurrence de François Mitterrand, dans une émission politique du dimanche soir. Et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas un seul journaliste pour l'interrompre. Heureux temps.
Nation Matmut.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de François Mitterrand avec votre invité, la journaliste et éditorialiste Michèle Cotta, auteur du Monde selon Mitterrand aux éditions Talendier.
Je pensais, en vous écoutant Michèle Cotta, sur le caractère de plus en plus expérimenté de François Mitterrand, à ces vers de Rostand dans Cyrano, hein, quand il fait dire au comte de Guiche: vous savez, quand on a trop réussi sa vie, l'on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, mille petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un regret, mais une gêne obscure, et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, tandis que des grandeurs en montent les degrés, un bruit d'illusions sèches et de regrets. Il y avait des illusions sèches et des regrets chez François Mitterrand, probablement.
Probablement, à vrai dire, je pense que passer l'observatoire, qui a été sa grande remise en cause et son regret principal, je pense qu'après, il a toujours été finalement dans la même ligne et pas, ne se posant pas trop de problèmes, sauf qu'il était dans un trou, c'est-à-dire qu'il est descendu quand même dans un trou pendant la période deux fois, donc une fois en 59 et une fois encore pire parce qu'elle était inattendue en 1968, puisqu'en 1968 il avait peut-être trop tôt fait acte de candidature pour remplacer De Gaulle, mais il l'a fait avec l'accord de tous les partis de gauche qui lui avaient demandé de le faire, alors qu'il était lui-même réticent. Bon, là-dessus, tous les partis de gauche, naturellement, ont dit qu'il avait été trop loin. Il s'est retrouvé tout seul jusqu'à laisser passer l'élection présidentielle de 69.
Oui.
Bon, et puis lorsqu'il a pu faire la preuve que la gauche, là, faisait 5,5%, il s'est senti repartir et il est reparti tout de suite après.
Enfin, alors, on connaît cette histoire.
Il y a eu des périodes très dures quand
même.
Le
congrès d'Épinay, on met le Parti Socialiste en coupe réglée, le programme commun, le projet pour les élections de 78, qui sont un échec là encore.
Alors que tous les sondages pensaient à une réussite et pensaient que Valéry Giscard d'Estaing serait le premier président de la République à connaître la cohabitation. Et c'est là d'ailleurs où Mitterrand avait dit nous le garderons. Qui sera sûr, nous le garderons, ce qui n'a pas vraiment plu à Valéry Giscard d'Estaing. Et là, encore une fois, mais si vous voyez un trait de son caractère, par exemple, en 78, quand il est battu, il a des bureaux à la Tour Montparnasse, ses collaboratrices et collaborateurs, mais ses collaboratrices sont en pleurs. La soirée se finit, il ferme la porte de son bureau et il tape sur l'épaule de sa collaboratrice Laurence Soudé en lui disant: on réussira la prochaine fois.
Et voilà, ça c'est incroyable.
Alors que tout le monde pleurait.
Incroyable. Là, vous parliez d'un ressort, c'est un ressort absolument phénoménal. Et on a le souvenir aussi d'un candidat socialiste qui, à la fin, toute fin de cette décennie 1970, prend du recul. On le voit avec Cézanne dans les Landes, enfin, etc. On voit un homme qui...
Je ne pense pas que ce soit une posture, hein.
C'était sa nature qui...
Il dit « je préfère toujours écouter les chaînes
que discuter avec lui ».
Vous savez, comme journaliste, quand la meute de journalistes dont je faisais partie le suivait, il passait son temps à nous dire « voilà, telle essence d'arbre, telle écorce, regardez ce que j'aime ». Mais on faisait des tours, hein, des tours infinis en se disant « pourvu qu'il arrête de regarder les arbres ». Donc c'est pas une posture, c'est quand même
une vraie passion.
Quelque chose les arbres, les landes, la forêt,
les ânes. Même si nous n'avons fait que survoler cette longue préparation et cette carrière politique, il est évident que lorsque le 10 mai 1981, il est enfin élu par le suffrage universel, il accède à la magistrature suprême, c'est une sorte de couronnement. C'est quand même quelle somme d'efforts incroyables se trouve ainsi récompensée.
Non, mais il est le premier à dire, c'est maintenant que les difficultés commencent. Et il le dit le jour même. Le lendemain, il était quand même plutôt content d'avoir gagné. Et c'est effectivement les difficultés qui ont commencé, mais de très très graves difficultés. Parce qu'il a fallu d'abord soutenir une partie de son programme et l'exécuter, puis après, s'apercevant que c'était difficile et qu'il fallait un peu revenir en arrière, décréter la pause, et puis après la pause, changer tout de même de cap. Il a fait ça, je trouve, en étant... On a oublié à quel point il était quand même, à quel point le gouvernement Monroy, qui était son premier gouvernement, a été tout à fait combattu. On a oublié que
ça a été d'une violence inouïe.
La droite disait les chars soviétiques arrivent à Paris. Au fond, tout ça maintenant appartient au passé, mais ça a été très très face à cela.
C'est Pierre Monroy qui raconte comment il est allé voir François Mitterrand dans les coulisses même du sommet de Versailles, puisque c'était le sommet de Versailles, pour lui dire cette fois il faut passer à la rigueur, en quelque sorte. Il y avait Jacques Delors aussi derrière. C'est un basculement qui a dû être extrêmement délicat à accomplir.
Il y a une semaine effectivement très, très difficile où Mitterrand choisit entre l'Europe, au fond, rester dans l'Europe ou la quitter. Il a autour de lui des gens qui lui conseillent de rester dans l'Europe, comme Pierre Monroy qui dit qu'il ne sait pas conduire un véhicule sur un terrain vert glacé, que par conséquent il s'en ira si on ne choisit pas l'Europe. Et de l'autre côté, des gens qui lui disent non, il faut une grande dévaluation, il faut repartir, il faut...
C'est très intéressant parce que par rapport à notre débat politique actuel, on se demande beaucoup depuis quand cette option de l'Europe est devenue déterminante, pour ne pas dire structurante, du paysage politique. Eh bien, peut-être qu'après tout, c'est au début de la décennie 80, juste après l'alternance.
Oui, c'était en 83-84.
Et puis, alors, arrive la contre-alternance, si je puis dire, les élections de mars 1986, avec l'arrivée de le retour de la droite, Jacques Chirac est Premier ministre, et là, c'est le début d'un combat.
C'est drôle, d'ailleurs, ça aurait peut-être pas dû être un combat, parce que après tout, c'était deux grands animaux politiques, mais le combat était lequel va déclencher les hostilités avant l'autre. Moi, je pense que Mitterrand voulait être réélu en 1988. Par conséquent, il a choisi, au fond, de s'embusquer, d'attendre les erreurs de son adversaire, sans dégainer. Mais comme Chirac non plus ne dégainait pas, ça a donné deux ans très, très curieux, et auxquels, finalement, le règlement de compte final a été en 1988, au cours d'un débat télévisé, le débat télévisé présidentiel.
Alors là, vous nous en donnez le script, parce que il faut dire que ça vaut la peine. Ouais, ça, c'est quand même extraordinaire.
Mitterrand a réglé son problème, finalement, avec Chirac, qui était lui-même un peu surpris et dépassé par la vigueur de son adversaire. Et il pensait que sa vigueur s'était atténuée, il s'est trompé.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un moment très intense. Jacques Chirac s'en est jamais remis, si je puis dire, de cette histoire.
Je ne sais pas, finalement, on ne saura jamais lequel des deux. Il raconte des versions différentes. Moi, j'y étais à ce débat.
Bien sûr, en plus, c'est vous qui animiez.
On ne savait pas qui mentait et qui ne mentait pas. Je crois qu'en réalité, les deux disaient un bout de la vérité. Mais donc, Chirac a été complètement...
Vous sentiez-vous la tension sur le plateau? Ça devait être extraordinaire.
Je veux dire que c'est la tension la plus importante que j'ai connue dans n'importe quel débat, y compris avec celui avec Giscard, mais qui était quand même resté dans une forme. Là, c'était vraiment les yeux dans les yeux, je le conteste. Et lorsqu'il a dit, Mitterrand, les yeux dans les yeux, je le conteste, moi, j'étais pas sûr que les yeux dans les yeux, il pouvait le dire.
Là, terrible, extraordinaire. Alors, il est donc réélu en 1988. Ce qu'on oublie.
Très bien réélu.
Très bien réélu. Ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que c'est un homme malade et qu'il l'est d'ailleurs depuis les toutes premières semaines de son premier mandat. Ça, c'est terrible. Cette présence de la maladie a joué un rôle, là encore, dans sa façon d'envisager la vie et les choses.
Je peux me tromper, hein, franchement. Je pense que des gens qui étaient plus proches de lui auraient peut-être une autre interprétation. Je pense qu'il s'est cru malade, qu'il a été malade en septembre 81, donc quelques mois après avoir pris le pouvoir, ce qui est terrible quand même. Surtout après l'épisode, après que Georges Pompidou soit mort dans ces conditions.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il a eu une rémission. Il pensait qu'il a eu une rémission. Et d'ailleurs, il n'en aurait pas eu, qu'il n'aurait pas vécu jusqu'en 94 et qu'il n'aurait pas rechuté ce qui a été public en 1992. Donc, je pense qu'il a été malade, mais qu'il se sentait guéri. Et ça fait partie aussi de son ambition. Ça fait partie aussi de cette impression qu'il pouvait dominer tout, y compris son cancer. mais celui-ci a été plus vigoureux que lui.
Vous citez, Michel Cotta, cet échange avec Jean-Pierre Elkabbach. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont se déroule le temps là où vous en êtes? Est-ce que, demande Elkabbach, et Mitterrand répond, « Le mien est comme le vôtre, on n'a pas le temps de le voir passer, et votre vie s'en va comme ça. » Jean-Pierre Elkabbach, « Quel conseil vous me donnez pour qu'elle ne s'en aille pas aussi vite ?» Et François Mitterrand, « Aucun conseil, c'est une loi qui s'impose à vous comme à moi. Travaillez. Au moment où vous serez obligé d'achever votre tâche, vous aurez le sentiment de l'inaccompli, de l'inachevé. Toutes les symphonies sont inachevées. » Il y a comme ça, là on est dans une interview.
Vous parliez tout à l'heure des regrets. Alors, quels pouvaient être ces regrets? Peut-être qu'il a eu, son dernier septennat n'a pas été commode. Une nouvelle cohabitation avec quelqu'un, si j'ose dire, qu'il a encore plus détesté que Jacques Chirac.
Édouard Balladur.
Donc je pense peut-être qu'il s'est dit que son remords de la fin, c'est j'aurais dû faire plus de choses dans le courant du dernier septennat. J'ai pas renversé le monde, je suis pas allé assez loin et surtout j'étais finalement trop malade. C'est vrai que les deux dernières années ont quand même été très dures pour lui, mais Édouard Balladur raconte quand même qu'il était très souvent malade, très souvent.
Édouard Balladur, qui en tant que directeur de cabinet avait par ailleurs déjà connu la maladie de très près, la maladie de Georges Pompidou.
Voilà, il la connaissait moins près, mais enfin il la vivait.
Bien entendu, il la subissait au quotidien. C'est très intéressant de voir quand même que François Mitterrand aura maîtrisé d'une certaine manière. Il disait je crois aux forces de l'esprit. Il y a de très belles citations d'ailleurs sur l'esprit, etc. Et sur la force de l'esprit dans votre ouvrage. Il maîtrisait le temps, en quelque sorte. Il est allé jusqu'au bout de son mandat. Il a fait ses adieux, ce dernier voyage en Égypte, tout à fait incroyable. Et puis il rentre et il va mourir. On a l'impression que tout a été géré, y compris les parts d'ombre de sa vie, dont il aura eu le temps de s'expliquer avec Jean-Pierre Elkabbach, justement, devant les Français.
Et dans le livre sur la jeunesse française,
aussi. Bien.
Et puis surtout en révélant l'existence
de Mazarine, évidemment.
Tenait plus qu'à tout, l'existence de Mazarine, pour que, au fond, avant de mourir, il ait rendu justice à la présence de cette jeune fille qui était tellement importante dans sa vie.
C'est quand même le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un exemple de maîtrise tout cela. Si un mot devait sortir de ce parcours inouï et de cette destinée, c'est bien celui de maîtrise. Voilà quelqu'un qui, tout en sachant sans doute, comme il le disait, laisser le temps au temps, maîtrisait les événements, les dominait d'une certaine façon.
Maîtriser, il n'a pas toujours tout méprisé, mais maîtriser.
Le lapsus est maîtriser, formidable.
Maîtriser, mais... Non, je pense que c'est l'obstination à rebondir aussi, parce qu'il a eu donc des phases très très dures où beaucoup seraient tombés définitivement. Donc je pense que c'est pas seulement la maîtrise, mais c'est aussi l'obstination.
Combat, pensée, arrière-pensée, pics et polémiques, voilà ce qui constitue la matière tellement vive et inépuisable du Monde selon Mitterrand de Michel Cotta. C'est chez Talendier, bien entendu. Merci beaucoup, Michel Cotta.
Merci à vous.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Julien. Il vous demande comment on faisait pour se réveiller le matin avant l'invention du réveil.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Julien. Il nous a envoyé sa question via la page Facebook de l'émission. Julien se demande depuis des années comment les gens faisaient pour se réveiller alors le matin avant l'invention du réveil.
Alors je vous avoue que nous nous sommes amusés puisque nous avons des stagiaires, vous savez, qui viennent de temps en temps de l'émission. Et alors là, nous avions un stagiaire adorable qui s'appelle Antoine. Et je lui dis, tiens, ben voilà une question à laquelle il faut répondre. Et alors, c'est amusant parce que j'ai sous les yeux toute sa réponse, c'est formidable. Il me parle des horloges à eau, vous savez, des clepsydres, de tous les systèmes qui ont bien pu être imaginé. Il nous rappelle que les horloges de table ont pu être réglées pour sonner à une heure donnée à partir du 15e siècle. Il a fallu la trouver, cette information-là. Et qu'au 16e siècle, la technologie a été étendue à un certain nombre de montres de poche. Oui, tout ça est vrai. Il me parle même, alors ça c'est formidable, d'une espèce d'horloge à feu qui avait été créée au 6e siècle avant notre ère en Chine. Mais j'ai envie de lui dire, Antoine, c'est plus simple que ça la réponse. On se levait avec le soleil et l'on se couchait de même autrefois. Il y avait des coques pour vous réveiller tout simplement le matin. Et généralement, comme de toute façon on ne faisait pas comme aujourd'hui de bonnes nuits bien complètes et bien régulières, eh bien on suivait les rythmes de l'horloge du coin, du clocher local qui vous disait tout simplement, là cette fois il est 5h, c'est l'heure de se lever. Parce qu'autrefois, une chose est certaine, c'est qu'on se levait très tôt. Il y a comme ça des questions qui appellent des réponses assez simple, somme toute. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. Enfin, grâce à Antoine, j'ai quand même appris des choses.
Voilà, voyez.
Que j'ignorais. Alors,
il n'a pas travaillé en vain.
Voilà, nous on va changer les idées, on va chanter aujourd'hui. Grâce à un invité que vous connaissez sans doute, Franck, si je vous dis une belle histoire, fait comme l'oiseau, c'est la fête.
Michel Fugain,
exactement, qui sera avec nous. Vous pourrez même venir chanter avec nous si vous le souhaitez.
Eh bien, volontiers. Nous chantons et nous dansons avec Marion Ruggieri. Nous nous disons à demain, Céline.
À demain, Franck.